chapitre 1er, versets 16 et verset 17. Jacques, chapitre 1er, versets 16 et verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Tite, chapitre 2, l'épître de Paul à Tite, donc quelques pages avant. L'épître de Paul à Tite, chapitre 2, là aussi un beau verset, enfin un beau texte, parce qu'il y a plusieurs versets. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et puis 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, texte aussi bien connu. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. J'ai voulu commencer là, parce que c'est un beau texte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Le lien entre ces trois textes, vous l'avez bien sûr compris, et il rejoint le chant que nous avons partagé. Il est question de la grâce. Il y a quelques années, sur le pas de la porte, deux personnes étaient venues m'évangéliser, deux témoins de Jéhovah, et puis on a commencé à parler. Et à un moment donné, je me rappelle la question de l'une des témoins de Jéhovah. Elle m'a dit, parce que je parlais de la grâce que Dieu avait faite, elle me dit, c'est quoi la grâce? Alors, ce n'est pas trop étonnant, dans son contexte, qu'elle ne comprenne pas la grâce. Ça, dire, c'était normal. Mais la question que je me suis fait derrière, y aurait-il pas des chrétiens qui pourraient aussi réagir de cette manière? Et des fois dire, c'est quoi la grâce? Des personnes qui l'auraient vécu, mais qu'aurait beaucoup de mal à mettre une définition sur ce qu'est la grâce. La grâce, c'est un sujet difficile qui échappe à notre compréhension. C'est pourquoi Jacques nous dit « Ne vous y trompez pas dessus ». C'est facile de se tromper. Pourquoi ? Elle échappe à notre compréhension parce qu'elle n'est pas d'origine humaine. Elle vient de Dieu. Les hommes étaient incapables d'inventer ça. Les hommes, ils ont inventé la religion. Des efforts pour essayer d'atteindre Dieu. Mais la grâce, ça vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est ce qui rend l'évangile unique, au point que c'est appelé l'évangile de la grâce. Elle nous échappe aussi parce que le principe de la loi et des œuvres est profondément ancré en nous. Même quand on a expérimenté la grâce, on a quand même toujours tendance à vouloir bricoler un petit peu et faire de la religion. Elle nous échappe aussi parce qu'elle nous paraît injuste dans un sens. Dieu sauve les mauvais et pas les meilleurs. Elle nous échappe aussi parce que pour la comprendre, il faut passer par une profonde conviction de péché. Et tant que je ne suis pas passé par là, j'aurai toujours du mal à comprendre ce qu'est la grâce. Et puis, la grâce, elle nous échappe parce que c'est quelque chose de très vaste qui nous ramène sur l'amour de Dieu, l'amour incompréhensible, insondable de Dieu. Comment définir la grâce ? La grâce, c'est la manifestation de l'amour immérité de Dieu qui se manifeste notamment dans un salut gratuit et immérité, qui se manifeste dans le rapport que Dieu veut avoir avec nous indépendamment de nos mérites, et puis dans la protection qu'il nous accorde, la bienveillance qu'il exerce envers ses enfants, et je dirais même d'une certaine mesure envers le monde entier. Parce que la grâce, certains en bénéficient dans une certaine mesure sans réaliser ce que c'est. Pourquoi la grâce ? Parce que la grâce, elle révèle la nature de notre Dieu et la grandeur de son amour. Pourquoi la grâce ? Parce que nous avons un Dieu qui ne sait que donner. Il n'échange pas, il ne troque pas, il ne vend pas notre Dieu. Notre Dieu, il est tellement grand qu'il ne peut que donner. Nous, on n'a rien à proposer en échange. Pourquoi la grâce ? Parce qu'elle place tous les pécheurs sur un plan d'égalité. Pourquoi la grâce ? Parce que pour les pécheurs que nous sommes perdus comme nous étions, c'était le seul moyen pour être sauvés. Il y a plusieurs siècles, une dame a écrit à la reine d'Angleterre pour plaider pour son fils. Et la reine d'Angleterre va faire venir cette maman. Elle va dire « Votre fils est condamné à mort et j'ai regardé son cas, mais il ne mérite pas qu'on lui accorde la grâce. » Et la maman dira « C'est justement pour ça que je vous demande une grâce. Sinon, je ne vous la demanderai pas. » Et entendant ces paroles, la reine d'Angleterre va accorder une grâce à cet homme qui ne sera pas condamné à mort. J'avance un petit peu et je voudrais m'arrêter sur cette expression sur laquelle je médite depuis quelque temps. Je vous exhorte, ou nous vous exhortons, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et je voudrais qu'on braque un petit peu le projecteur là-dessus. Et je me suis dit, il y a plusieurs manières ou plusieurs possibilités de recevoir la grâce de Dieu en vain. Dans le sens, inutilement. J'en ai relevé quatre. La première possibilité de recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est finalement recevoir le salut, expérimenter la grâce, puis derrière, se perdre à nouveau. Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il a parlé sur la nouvelle naissance, la conversion à Jésus-Christ. Lorsque Jésus vient dans notre vie, c'est la grâce qui se manifeste. C'est la grâce qui est à l'œuvre dans ma vie. Personnellement, pour baptiser quelqu'un, je ne vais pas attendre qu'il ait tout compris. Mais qu'est-ce que je vais vouloir voir ? Je vais vouloir voir si la grâce est passée dans sa vie et la personne est devenue une nouvelle créature en Jésus. Il y a deux mots grecs pour parler, pour évoquer, pour définir par recevoir. Celui qui est mentionné ici contient l'idée d'un bon accueil et même est utilisé pour exercer l'hospitalité envers une personne. Un jour, on a reçu Jésus. Il est venu dans notre cœur, la grâce est venue. Et il a transformé notre cœur, il a mis l'assurance du salut. Il nous a délivré de certaines choses, bien sûr le pardon des péchés. Notre vie a changé. Le défi ensuite, c'est d'y demeurer. Parce que malheureusement, s'il est possible de recevoir la grâce, il est possible de la perdre. Je voudrais quand même dire à certains ce matin, Ils ont besoin de découvrir la grâce, de la recevoir. Certains ce matin n'ont pas accepté Jésus comme sauveur. Et ça commence là. Tourne tes regards vers celui qui a donné sa vie sur la croix. Accepte-le comme sauveur. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Et pour tous ceux qui l'ont reçu et qui constituent la majorité, ensuite, on veut y demeurer. Parce que, malheureusement, on peut perdre son salut, vous le savez. J'ai vu parfois des personnes être bouleversées par l'amour de Jésus. Et vraiment expérimenter la nouvelle naissance. Mais parce qu'elles n'ont pas fait les choix qu'il fallait, parce qu'elles n'ont pas coupé avec des pratiques, parce qu'elles n'ont pas coupé avec des fréquentations, le péché les a rattrapées. Et après, forcément, on retombe dans ce qu'on était en train de quitter, des fois même, on tombe encore plus bas. On a parfois vu des personnes qui ont reçu Jésus comme sauveur, qui ont marché longtemps avec lui. Et un jour, elles se sont faites rattraper. Il y a eu quelques mauvais choix, quelques négligences, et puis le péché les a rattrapés. Il a repris ses droits, et malheureusement, ça a été un échec. Alors, c'est difficile et c'est impossible pour nous de dire qu'un tel a perdu son salut. Chaque fois que j'ai voulu un petit peu penser comme ça, j'ai toujours été surpris. Il y a des gens où je m'étais dit, lui là, il a perdu son salut, et j'en ai vu se repentir sur la fin de leur vie, revenir au Seigneur de manière étonnante. Ça, c'est pas notre responsabilité. Et je sais qu'on peut recevoir la grâce de Dieu et malheureusement se perdre derrière. Et ça, ça fait mal. Quand on sait le prix d'une âme, quand on sait le prix que Jésus a payé pour nous sauver, ça fait mal quand on voit quelqu'un se retirer en arrière pour se perdre. Forcément, il y avait bien sûr cette pensée qui était là. La deuxième possibilité, c'est ne pas en bénéficier autant que nous y avons droit. Il y a un texte qui nous invite à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Il paraît que nous utilisons très peu les capacités, les possibilités de nos produits high-tech. Je me rappelle d'un frère qui avait un iPhone dernière cri. Alors, je ne sais pas quel numéro c'est, hein, je suis moi déconnecté dans ce rayon. Mais il avait un téléphone et il me disait, moi j'ai un super téléphone, mais je m'en sers que pour téléphoner et envoyer des SMS. Alors, en échange, je lui ai dit, tu devrais faire comme moi, avoir un Wiko, ça suffira. Mais la grâce, ce n'est pas du Wiko, c'est du high-tech. C'est du haut niveau. Et ça l'ouvre d'immenses possibilités. La grâce, c'est pas seulement c'est bon, je suis pardonné de mes péchés, je reste tranquillement dans mon coin. La grâce, c'est un champ à découvrir. C'est quelque chose d'immense et de glorieux. Dans le salut, il y a quoi? Il y a un accès illimité auprès du trône de la grâce. On connaît ce passage, Hébreux chapitre 4, verset 16. Et ne pas en user. Ne pas s'approcher du trône de la grâce, c'est quoi? C'est quelque part avoir reçu la grâce et ne pas en bénéficier. C'est recevoir un peu la grâce en vain. Quand Jésus dit « je vais vous préparer une place », nous on pense toujours que Jésus nous prépare une place au ciel là-haut. Mais peut-être des fois je me dis « est-ce que c'est pas Jésus n'est pas allé nous faire un chemin pour entrer ?» La Bible nous dit que Jésus est rentré dans un tabernacle céleste et il a fait la purification de ce tabernacle céleste par son sang. Dites-moi, pourquoi le ciel avait besoin d'être purifié? Le ciel avait besoin d'être purifié parce que nous, on a besoin d'y rentrer. Et nous, on peut s'en approcher. Nous, on va y rentrer. Jésus a permis que nous puissions nous approcher. Jésus nous a ouvert le chemin du trône. On peut s'approcher du Dieu vivant et vrai. On peut le laisser sonner notre cœur. Ne pas user de ce droit, c'est quelque part recevoir la grâce en vain. Dans le salut par grâce, il y a une grâce qui est associée qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un don, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est immérité. Ça ne s'obtient pas par la sanctification, je ne sais quoi, même si Dieu est capable de refuser parce qu'il peut voir des choses qui ne vont pas. Mais c'est une grâce, c'est un cadeau. Et quelque part dire « je suis sauvé, moi je n'ai pas besoin de ça », c'est peut-être recevoir aussi la grâce de Dieu en vain. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, ça se reçoit comme le salut quelque part. Deux conditions essentielles, la foi et la soif. Et celui qui a la foi et qui a la soif, il est dans les conditions. Mais recevoir la grâce de Dieu, le salut, sans chercher le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque part avoir un salut Wiko, voilà. On veut un salut high-tech. Dans le salut, il y a aussi les dons de l'esprit, frères et sœurs. Ce sont aussi les races. D'ailleurs, c'est le mot don qui est là, qui est exprimé. Et dans les dons de l'esprit, ça veut dire que la Bible nous invite à pouvoir entrer dans la prophétie, à pouvoir servir, à pouvoir que notre bouche soit un instrument de bénédiction. Ne pas vouloir y rentrer, quelque part, c'est faire un salut wico. Et puis, dans le salut, il y a toutes sortes d'expériences à faire. Il y a tout un programme, ne pas chercher à y rentrer. C'est quelque part un salut wico. Le salut, ce que je voudrais mettre sur votre cœur, c'est que le salut a ouvert pour nous toutes sortes de droits, de possibilités. Récemment, un pasteur me disait, tout heureux, qu'il venait de découvrir qu'il avait droit à la prime pour l'activité. Et alors il me disait ça, parce que donc pour compléter, c'est revenu, il me disait ça dans le sens pour me partager sa bonne nouvelle. Et puis je lui ai dit, mais moi ça fait 10 ans que je la touche. Alors il me regarde, après il me fait, t'es un bandit toi. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et alors on disait ça sur le ton du sourire. Et alors on souriait, mais alors je pensais effectivement, c'est pas toujours des choses qu'on va partager. Mais vous voyez, des fois on a des droits et on les ignore, ou on n'en profite pas. Le salut nous a ouvert des droits, des opportunités, des possibilités. Ne nous contentons pas d'un « c'est bon, je suis sauvé », c'est d'un mauvais calcul. Mais rentrons dans tout ce que Dieu nous a ouvert. Usons de tous les droits et les possibilités que le Seigneur nous a ouverts. Sinon, quelque part, c'est recevoir la grâce en vain. Il y a une troisième possibilité de recevoir la grâce en vain. On va lire quelques textes. Galates chapitre 4, l'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous ne servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. On va au chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Je m'arrête là. Les Galates avaient découvert l'Évangile, avaient entendu le message de la grâce et ils l'avaient saisi. Ça avait bouleversé leur cœur et leur vie. Ils étaient pleinement rentrés dans tout ce que la grâce proposait. Et puis un jour, quelqu'un est venu leur dire, ou a commencé à leur dire un autre évangile. Un autre évangile qui dit à peu près ceci. Si en plus de la grâce, vous observez les jours, les fêtes, si vous faites circoncire, si vous ne mangez pas de ceci ou de cela, ou vous faites tel jour, ou vous faites ci, ou vous portez tel vêtement, enfin tous des trucs comme ça, vous serez encore plus justifié, sauf que dans la justification, il n'y a pas de degré. Ou on l'est, ou on ne l'est pas. Vous serez encore plus béni. Alors ça marche. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à vouloir ajouter à la grâce certaines choses. On vous offre une super bouteille de vin. Je ne sais pas quel grand, un côte rôti, des années 90. Un truc magnifique pour les amateurs. Et vous raisonnez en disant, pour en avoir plus, je vais mettre de l'eau. Ceux qui apprécient le vin vont dire, sacrilège. Quelqu'un qui a reçu la grâce et qui veut la mélanger avec des bribes de loi, des commandements, c'est ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Il est en train de gaspiller et de rendre imbuvable ce que Dieu lui a donné. C'est exactement ce que l'on fait quand on veut commencer à bricoler. Et je peux vous dire que l'expérience que j'ai dans ma famille, ça fait du dégât. Parce que quand on commence à s'éloigner, on perd le goût. On perd le goût justement pour les bonnes choses. On perd le goût de la grâce. Que le Seigneur nous préserve de cela. Et quelque part, c'est une... Vous avez vu le terme, il est très fort. Vous êtes déchu de la grâce. C'est le terme utilisé pour parler d'un bateau qui s'échoue. Un bateau qui sombre. Quelqu'un qui commence à prendre ce chemin-là, il est déjà en train de sombrer. Et je peux vous dire par expérience que quand on prend ce genre de chemin, on ne les retrouve plus. Veillons toujours, on a découvert la grâce, il nous faut la méditer, s'en repasser. Ne mélangeons pas la grâce avec des bribes de loi, avec des commandements qui n'en valent pas la peine. On a suffisamment de choses compliquées sur les principes moraux, sur les valeurs dans notre cœur, sur les convoitises dans notre cœur, pour ne pas nous embêter avec des trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment, c'est recevoir la grâce de Dieu en vain. Et puis la quatrième possibilité sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, parce que je pense que dans le contexte, c'est celle-ci qui est mentionnée, c'est ne pas permettre à la grâce de nous transformer et de nous éduquer. Et là, je viens surtout sur Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Quand il est question de quelque chose de vain, V-A-I-N, c'est... Ça signifie quelque chose d'inutile, quelque chose qui ne porte pas de fruit. Si recevoir la grâce de Dieu en vain, ça veut dire que je reçois la grâce, mais quelque part, elle ne produit pas le fruit qu'elle devrait produire. La grâce, elle a été manifestée. Chaque fois que vous lisez « La grâce a été manifestée », vous braquez le projecteur sur Jésus. C'est Jésus, la manifestation de la grâce de Dieu. Il nous est dit que par Jésus, la grâce et la vérité sont venues. Jésus était plein de grâce et de vérité. Ce n'était pas Marie. Marie, c'est toi à qui une grâce a été faite. Voilà ce que l'ange lui a dit. Mais pas plein de grâce et de vérité. C'est Jésus qui était plein de grâce et de vérité. C'est par lui qu'elle est venue. C'est Jésus qui l'a manifestée. Et puis derrière, elle a été développée, expliquée dans les Épîtres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la grâce, une fois qu'elle vient dans notre vie, elle est comme une source qui doit nous emmener plus loin. Elle doit nous transformer. Elle doit changer notre manière de penser. Elle doit changer notre caractère. Elle doit changer notre manière de réagir. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous éduque. Elle nous façonne. Littéralement, elle nous corrige, même avec des coups de bâton. C'est un petit peu le sens. Elle nous travaille de l'intérieur. Et elle va changer notre manière de vivre. La grâce... Elle nous transforme, elle doit produire ce fruit. Alors dans quel sens, dans quelle direction elle va nous transformer? La grâce, elle va nous transformer pour aller dans la direction de la sainteté et de ce qui est pur. La loi et la grâce visent les mêmes buts. Et notamment dans leur but, c'est de nous rendre saints. La différence, c'est qu'elles ne prennent pas le même chemin. C'est pas les mêmes circuits. Sous la loi... Dieu exige la justice. Sous la grâce, Dieu la donne. Il la met sur notre compte et il la met en nous. La loi, elle dit « tu dois ». La grâce, elle dit « tu peux ». Les commandements de l'Ancien Testament, notamment la loi morale, deviennent des possibilités, des promesses à atteindre, des buts à atteindre, parce que je peux aller dans cette direction-là. La grâce... Elle amène le croyant à raisonner de cette manière. Il m'a sauvé du péché. Il m'a sorti du péché. Et la vie qu'il a déposée en moi, elle va m'amener, elle va me pousser à m'en éloigner. Le souvenir de ce que Jésus a fait, de repasser l'œuvre de la croix, de se souvenir de ce que Jésus a accompli, ça met en nous ce désir. Pas de péché. J'en veux pas. Seigneur, aide-moi. Je veux pas qu'il ait prise. Ça doit créer ça dans notre cœur. Plus que la loi, c'est beaucoup plus fort que la loi. Dans un village des Indes, vivait une pauvre veuve. elle n'avait qu'un fils qui, en grandissant, était tombé sous l'influence de mauvais camarades. Il était devenu un buveur et un joueur. Il avait d'abord fait des gains qui l'avaient poussé à jouer des sommes toujours plus importantes. Finalement, il avait perdu tout son argent, et comme il ne pouvait plus rembourser ses dettes de jeu, il avait été jeté en prison, selon la législation du pays. Il ne devait en sortir que lorsque ses dettes auraient été payées. Le malheureux passait d'interminables journées à rêver au jour où il pourrait sortir. Il avait d'abord compté sur ses amis, mais ceux-ci l'avaient abandonné. Quant à sa mère, elle était trop pauvre et d'ailleurs, depuis des années, il n'avait cessé de lui désobéir et de repousser tous ses conseils. Mais voici qu'un jour, il vit la porte s'ouvrir et son geôlier lui crier « Tu peux sortir, tu es libre, quelqu'un a payé ta dette. » Il se précipita dehors, prenant le chemin de la maison de sa mère. Où aurait-il pu aller ailleurs ? En approchant, il l'aperçut debout près de la porte. Cette vue le bouleversa et il courut se jeter en pleurant dans ses bras. Comme il était là, serré contre elle, ses yeux tombèrent sur les mains de sa mère. Il s'étonna d'y voir de longues cicatrices. « Mais maman, que t'est-il arrivé ? Qui t'a fait ces affreuses cicatrices ?»« Mon fils, n'en parlons pas, c'est pas la peine. »« Si, maman, je veux savoir. »« Eh bien, mon fils, pour payer ta dette, je me suis engagé comme manœuvre dans un chantier. Les pierres ont déchiré mes mains, comme tu le vois. Mais maintenant, tout est bien, tu es libre. Ne parlons plus de cela. » Quelques jours après, les amis du jeune homme apprirent sa libération, le félicitèrent et l'invitèrent à retourner avec eux. Mais il leur montra la porte. « Par mes fautes, j'ai trop fait souffrir ma mère. Je ne retournerai jamais avec vous. » Et il tint parole. Cette histoire passée en Inde, elle est vraie pour nous. Ce que Jésus a fait pour nous, le souvenir des souffrances de Jésus, ce que Jésus accomplit, ça doit nous booster à nous éloigner du péché, à mettre une distance. La grâce, elle nous apprend, elle nous éduque à vivre pieusement. Dans le texte de Tite, chapitre 2, il est question d'impiété. Tous les moyens que Dieu nous a donnés pour la piété, c'est-à-dire pour nous placer en relation avec Dieu, la louange, l'intercession, la prière, la lecture de la parole de Dieu, tous ces moyens ont un levier qui s'appelle la grâce. Si je veux y aller au mérite, ça ne marche pas, Dieu me résiste. Ça marche avec l'esprit de la grâce, bien sûr avec le nom de Jésus, ça marche sur ce terrain-là. La grâce, elle va nous aider à rentabiliser les moyens de piété que Dieu nous a donnés. La grâce, elle nous amène à aller vers l'essentiel, à vivre de manière efficace. Il est question d'attendre la bienheureuse espérance, la manifestation. Qui vit avec le sentiment d'attendre quelque chose ? On est tellement occupé, accaparé par toutes sortes de choses. Mais chaque fois que je repasse la grâce dans mon cœur, ce que Jésus a fait, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, ça m'amène à me concentrer sur l'essentiel. Et dire, il y a des futilités qui doivent sauver. L'accessoire, ça ne compte pas. On ne veut pas ce qui est vain, ce qui est inutile. Mais on veut se concentrer. Concentrer sur ce qui est important. La grâce, elle nous aide dans cette direction-là. Et vous savez, on est tous les mêmes. Mais dans nos vies, il faut en faire du déblayage. Régulièrement, il faut faire du tri. C'est comme dans la maison. Pour ceux qui habitent dans la même maison depuis 30 ou 40 ans, le jour où vous devez déménager, il y a du boulot. Je dirais que c'est un peu pareil pour nous dans nos vies. Constamment, il y a du débarras à faire. La grâce, elle nous amène à aimer les autres et à nous tourner vers les autres. Parce que ce que Jésus m'a fait m'amène inévitablement à vouloir le faire aux autres. Et dans tous les domaines, dans le sens de l'accueil, accueillez-vous les uns les autres, dans le sens d'être tourné, dans le sens de supporter, dans le sens de pardonner. Vous vous rappelez cette histoire que Jésus a donnée à quelqu'un à qui on lui remet une grosse dette, et il en trouve un autre qui lui doit quelques euros, il l'étrangle, il le jette en prison. Et Jésus fera tout un enseignement, mais montrera que si on ne sait pas pardonner, on est en contradiction avec la grâce que Dieu nous a accordée. La grâce, elle m'amène à exercer le pardon. Et le pardon, vous savez, c'est surtout important là où les relations sont les plus proches. Il y a deux endroits. La famille et l'Église. Et si je suis là ce matin avec des griefs contre quelqu'un, il faut que j'aille sur le terrain du pardon. parce que la grâce, elle me pousse dans cette direction-là. Et si je n'y vais pas, quelque part, je me mets en danger. Je peux m'abîmer. Combien on a vu de personnes se laisser abîmer sur ce terrain-là parce qu'elles n'ont pas su exercer le pardon. Et elles sont devenues amères, impossibles, impossibles à vivre. Moi, je n'ai pas envie de ça. Mais refuser d'aller dans cette direction-là, c'est se mettre en difficulté. Le refus de pardon, c'est toxique. C'est nocif. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Parfois, connu des personnes qui vous font un cadeau et ensuite qui vous font regretter d'avoir accepté le cadeau. Parce qu'en vous donnant un cadeau, elles ont compris des droits sur vous. Ouais, c'est pas du tout ça. La Bible, elle nous invite à fonctionner autrement, à aimer autrement. Je crois que c'est vraiment important d'apprendre à aimer. Le Seigneur nous aide. On est tous portés vers l'égoïsme. Là, le Seigneur nous aide à élargir notre cœur. Mais la grâce, elle nous amène sur ce terrain. Plus je repasse l'amour que Dieu a manifesté sur la croix, plus je dois aller dans cette direction-là. La grâce, elle nous apprend à vivre généreusement et gratuitement. Nous vivons dans un monde qui ne sait pas ce que c'est d'être gratuit. Même quand vous recevez un papier, c'est gratuit. Vous savez qu'il y a anguille sur roche. Parce que quelque part, c'est pas possible. C'est l'entrée gratuite, mais après, vous êtes... Et au final, on paye des fois plus cher que... Mais Jésus a dit, moi, je ne vous donne pas comme le monde. Le monde, il ne s'est pas donné, finalement. Mais Jésus, il a donné gratuitement. Son salut, il est gratuit. Et nous, on doit fonctionner de cette manière-là. Fonctionner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et je me permets de dire qu'il y a certains prédicateurs qui feraient bien de l'apprendre, ça. Parce qu'aujourd'hui, le commerce qui fait un contre-témoignage qu'on trouve dans le milieu évangélique, il fait mal au cœur. Mais la Bible nous invite à fonctionner de cette manière-là, à être des gens qui savent donner. Alors pas seulement financièrement, mais donner du cœur, donner du temps, être tourné vers les autres sans vouloir profiter. Ça, il n'y a que le Seigneur qui peut nous faire. Mais combien c'est important la grâce. Et si je ne vais pas dans cette direction-là, quelque part je reçois la grâce. La grâce, elle nous éduque et elle nous amène à vivre ensemble. Eh oui, parce que l'amour, ça ne fonctionne pas tout seul. Et la grâce, elle... mais le texte que nous avons lu, Tite chapitre 2, il évoque la grâce, il évoque Jésus, mais c'est aussi un beau texte sur l'Église, ce peuple que Dieu s'est acquis. Elle nous amène, et je crois que c'est important, sur l'assemblée de Mâcon. On avait un frère, c'était dès qu'il y avait des petits travaux, il était là. Et puis alors, il était toujours en train de bricoler. Et dès qu'il entendait un bruit, il mettait un peu d'huile là où ça grinçait. Il était remarquable dans ce domaine, mais la grâce, c'est ça, vous voyez, pour éviter que ça coince ou ça grince. Ça permet, on met un peu d'huile et c'est ça qui est important dans nos rapports fraternels. D'une manière générale, la grâce, elle m'amène à vivre autrement. J'ai vécu d'une certaine manière. Et parce que Jésus est venu dans ma vie, parce que Jésus a tout accompli, maintenant je vis autrement. Et autrement, s'il n'y a pas eu ce changement-là, il n'y a pas ce fruit, quelque part. Il manque quelque chose. Je termine en disant ceci, la Bible dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est Paul qui écrit cela. Alors je voudrais dire peut-être à quelqu'un, reprendre un peu les points que j'ai partagés, mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, reçois la grâce qui est en Jésus. Jésus a donné sa vie pour toi. Il est mort et il est ressuscité pour toi. Quelqu'un ce matin a besoin d'ouvrir son cœur à la grâce de Dieu, de dire Seigneur, je suis un pécheur, je ne mérite pas, mais tu m'offres un salut gratuit. Tu as payé le prix fort. Il est gratuit parce que Jésus a payé le prix fort. Reçois-le ce matin. L'appel est quelqu'un, il ne faut pas passer à côté. À la fin du 19e siècle, aux États-Unis, un homme avait été condamné à mort. Ses amis avaient pu obtenir en sa faveur une grâce présidentielle. Mais l'homme à qui elle est accordée va la refuser. Et là, aux États-Unis, ils se sont retrouvés devant un cas insoluble. La grâce présidentielle avait été accordée. Mais l'homme refusait qu'elle lui soit accordée. Et la Cour suprême a alors statué et elle a décidé qu'une grâce, elle est valable que si elle est acceptée. Et l'homme, il a été condamné à mort. La grâce, elle est accomplie. Jésus a manifesté. Jésus a tout accompli. Mais si tu la refuses, tu restes perdu dans tes péchés. Et tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Jésus ce matin. Pour ceux qui l'ont reçu, frères et sœurs, on veut y demeurer. On veut y être attaché. On veut s'y fortifier dedans. On veut la découvrir et pas rester sur le sas. On ne veut pas la mélanger avec n'importe quoi. Et puis on veut la laisser agir dans notre cœur. La mettre au Seigneur de nous transformer pour finalement devenir semblable à lui. Et raisonner comme Jésus, réagir comme Jésus, penser comme Jésus. Que le Seigneur nous aide ce matin. Béni soit ton nom. Alléluia.